Bienvenue dans Actualité du Pape. Cette dernière Actualité du Pape de la saison sera consacrée entièrement à la lettre apostolique qu'a publiée notre Saint-Père le Pape François ce mercredi 29 juin. Elle s'intitule « Desiderio, desideravi », « J'ai désiré d'un grand désir ». C'est une lettre apostolique au peuple de Dieu concernant la célébration de la liturgie. Un an après donc la publication du motu proprio Traditionis Custodes, le pape François invite les fidèles à redécouvrir la beauté de la liturgie, notamment à travers une formation liturgique priante. Voici des extraits de cette lettre apostolique. Je vous écris pour partager avec vous quelques réflexions sur la liturgie, dimension fondamentale pour la vie de l'Église. Le sujet est vaste et mérite d'être examiné attentivement sous tous ses aspects. Toutefois, dans cette lettre, je n'ai pas l'intention de traiter la question de manière exhaustive. Je souhaite plutôt offrir quelques pistes de réflexion qui puissent aider à la contemplation de la beauté et de la vérité de la célébration chrétienne. La liturgie est l'aujourd'hui de l'histoire du salut. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, nous dit le Seigneur en saint Luc. Ces paroles de Jésus par lesquelles s'ouvre le récit de la dernière scène sont la fissure par laquelle nous est donnée la surprenante possibilité de percevoir la profondeur de l'amour des personnes de la Sainte Trinité pour nous. Avant notre réponse à son invitation, bien avant, il y a son désir pour nous. Nous n'en sommes peut-être même pas conscients, mais chaque fois que nous allons à la messe, la raison première est que nous sommes attirés par son désir pour nous. De notre côté, la réponse possible, qui est aussi l'ascèse la plus exigeante, est comme toujours celle de nous abandonner à son amour, de nous laisser attirer par lui. Il est certain que toute réception de la communion au corps et au sang du Christ a déjà été voulue par lui lors de la dernière scène. Dès le début, l'Église était consciente qu'il ne s'agissait pas d'une représentation, aussi sacrée soit-elle, de la scène du Seigneur. Cela n'aurait eu aucun sens, et personne n'aurait pu penser à mettre en scène, surtout devant les yeux de Marie, la mère du Seigneur, ce moment le plus élevé de la vie du Maître. Dès le début, l'Église avait compris, éclairée par l'Esprit-Saint, que ce qui était visible en Jésus, ce qui pouvait être vu avec les yeux et touché avec les mains, ses paroles et ses gestes, le caractère concret du Verbe incarné, tout de lui était passé dans la célébration des sacrements. La liturgie nous garantit la possibilité d'une telle rencontre. Un vague souvenir de la dernière scène ne nous servirait à rien. Nous avons besoin d'être présents à ce repas, de pouvoir entendre sa voix, de manger son corps et de boire son sang. Nous avons besoin de lui. Dans l'Eucharistie et dans tous les sacrements, nous avons la garantie de pouvoir rencontrer le Seigneur Jésus et d'être atteints par la puissance de son mystère pascal. La puissance salvatrice du sacrifice de Jésus, de chacune de ses paroles, de chacun de ses gestes, de chacun de ses regards, de chacun de ses sentiments, nous parvient à travers la célébration des sacrements. Je suis Nicodème et la Samaritaine au puits, l'homme possédé par des démons à Capharnaüm et le paralytique dans la maison de Pierre, la femme pécheresse pardonnée et la femme affligée d'hémorragie, la fille de Jaïr et l'aveugle de Jéricho, Zachée et Lazare, le bon larron et Pierre pardonné. Le Seigneur Jésus, qui immolé sur la croix ne meurt plus, et qui, avec les signes de la passion, vit pour toujours, continue à pardonner, continue à nous guérir, à nous sauver avec la puissance des sacrements. c'est la manière concrète, par le biais de l'incarnation, dont il nous aime. C'est la manière dont il assouvit sa propre soif de nous qu'il avait déclarée sur la croix. Nous devons au Concile et au mouvement liturgique qui l'a précédé la redécouverte d'une compréhension théologique de la liturgie et de son importance dans la vie de l'Église. De même que les principes généraux énoncés dans Sacro Sanctum Concilium ont été fondamentaux pour la réforme de la liturgie, ils continuent à l'être pour la promotion de cette célébration pleine, consciente, active et féconde, la liturgie étant la source première et indispensable à laquelle les fidèles peuvent puiser l'authentique esprit chrétien. Par cette lettre, je voudrais simplement inviter toute l'Église à redécouvrir, à sauvegarder et à vivre la vérité et la force de la célébration chrétienne. Je voudrais que la beauté de la célébration chrétienne et ses conséquences nécessaires dans la vie de l'Église ne soient pas défigurées par une compréhension superficielle et réductrice de sa valeur, ou pire encore, par son instrumentalisation au service d'une vision idéologique, quelle qu'elle soit. La prière sacerdotale de Jésus à la dernière scène pour que tous soient un juge toutes nos divisions autour du pain rompu, sacrement de piété, signe d'unité, lien de charité. Redécouvrir à chaque jour la beauté de la vérité de la célébration chrétienne. Mais nous devons faire attention pour que l'antidote de la liturgie soit efficace. Il nous est demandé de redécouvrir chaque jour la beauté de la vérité de la célébration chrétienne. Je me réfère encore une fois au sens théologique, comme l'a admirablement décrit le numéro 7 de Sacro Sanctum Concilium. La liturgie est le sacerdoce du Christ, révélé et donné dans son mystère pascal, rendu présent et actif aujourd'hui par des signes sensibles. L'eau, l'huile, le pain, le vin, les gestes, les paroles. Afin que l'Esprit, en nous plongeant dans le mystère pascal, transforme toute notre vie, nous conformant toujours plus au Christ. La redécouverte continuelle de la beauté de la liturgie n'est pas la poursuite d'un esthétisme rituel qui ne prend plaisir qu'à soigner la formalité extérieure d'un rite, ou se satisfait d'une scrupuleuse observance des rubriques. Il va de soi que cette affirmation ne vise nullement à approuver l'attitude opposée, qui confond la simplicité avec une banalité débraillée, l'essentialité avec une superficialité ignorante, ou le caractère concret de l'action rituelle avec un fonctionnalisme pratique exaspérant. Soyons clairs, tous les aspects de la célébration doivent être soignés. Espace, temps, gestes, paroles, objets, vêtements, chants, musique. Et toutes les rubriques doivent être respectées. Une telle attention suffirait à ne pas priver l'assemblée de ce qui lui est dû, c'est-à-dire le mystère pascal célébré selon le rituel établi par l'Église. Mais même si la qualité et le bon déroulement de la célébration étaient garantis, cela ne suffirait pas pour que notre participation soit pleine et entière. L'émerveillement est une partie essentielle de l'acte liturgique, car c'est l'attitude de ceux qui se savent confrontés à la particularité des gestes symboliques. C'est l'émerveillement de celui qui fait l'expérience de la puissance du symbole, qui ne consiste pas à se référer à un concept abstrait, mais à contenir et à exprimer dans sa concrétude même ce qu'il signifie. La postmodernité, dans laquelle l'homme se sent encore plus perdu, sans référence d'aucune sorte, privés de valeur, parce qu'elles sont devenues indifférentes, orphelins de tout. Dans une fragmentation où un horizon de sens semble impossible, et encore chargé du lourd héritage que nous a laissé l'époque précédente, fait d'individualisme et de subjectivisme. Elle consiste aussi en un spiritualisme abstrait, qui contredit la nature humaine elle-même, car la personne humaine est un esprit incarné et donc en tant que tel, capable d'action et de compréhension symbolique. C'est avec cette réalité du monde moderne que l'Église, réunie en concile, a voulu se confronter, en réaffirmant sa conscience d'être le sacrement du Christ, la lumière des nations, Lumen Gentium, en se mettant religieusement à l'écoute de la parole de Dieu, Dei Verbum, et en reconnaissant comme sienne les joies et les espérances, Gaudium et Spes. Les grandes constitutions conciliaires sont inséparables, et ce n'est pas un hasard si cet immense effort de réflexion du concile œcuménique, qui est la plus haute expression de la synodalité dans l'Église, et dont je suis appelé avec vous tous à être le gardien de la richesse, à commencer par une réflexion sur la liturgie Sacrosanctum Concilium. En clôturant la deuxième session du Concile le 4 décembre 1963, Saint Paul VI s'est exprimé ainsi. Cette discussion passionnée et complexe n'a d'ailleurs pas été sans fruits abondants. En effet, le sujet qui a été abordé en premier lieu et qui, en un certain sens, est prééminent dans l'Église, tant par sa nature que par sa dignité, nous voulons parler de la Sainte Liturgie, a trouvé une heureuse conclusion. Et il est aujourd'hui promulgué par nous avec un rite solennel. Notre esprit exulte donc avec une joie véritable, car dans la manière dont les choses se sont passées, nous constatons le respect d'une juste échelle des valeurs et des devoirs. Dieu doit occuper la première place. La prière envers lui est notre premier devoir. La liturgie est la première source de communion divine dans laquelle Dieu partage sa propre vie avec nous. Elle est aussi la première école de la vie spirituelle. La liturgie est le premier don que nous devons faire au peuple chrétien, uni à nous par la foi et la ferveur de ses prières. C'est aussi une première invitation au genre humain, afin que tous puissent désormais élever leur voix muette dans une prière bénie et authentique, et faire ainsi l'expérience de cette force indescriptible et régénératrice qui se trouve lorsqu'ils se joignent à nous pour proclamer les louanges de Dieu et les espoirs du cœur humain, par Jésus-Christ, dans l'Esprit-Saint. C'est ici que se pose la question décisive de la formation liturgique. Romano Guardini dit « Voici la première tâche pratique à accomplir. » Portée par cette transformation intérieure de notre époque, nous devons réapprendre à vivre comme hommes en un rapport religieux. C'est ce que la liturgie rend possible. Pour cela, nous devons être formés. Guardini lui-même n'hésite pas à affirmer que sans formation liturgique, les réformes des rites et des textes ne seront d'aucune aide. Je n'ai pas l'intention de traiter maintenant de manière exhaustive le thème très riche de la formation liturgique. Je voudrais seulement proposer quelques pistes de réflexion. Il est évident que pour pouvoir conduire leurs frères et sœurs, les ministres qui président l'Assemblée doivent connaître le chemin, tant en l'ayant étudié sur l'itinéraire de leurs études théologiques, mais aussi pour avoir fréquenté la liturgie dans la pratique effective d'une expérience de foi vivante. nourri par la prière, et certainement pas seulement comme une obligation à remplir. Le jour de son ordination, chaque prêtre entend l'évêque lui dire « Réalise ce que tu vas faire, imite ce que tu vas célébrer, conforme ta vie au mystère de la croix du Christ Seigneur. » La liturgie rend gloire à Dieu non pas parce que nous pouvons ajouter quelque chose à la beauté de la lumière inaccessible dans laquelle Dieu habite. Nous ne pouvons pas non plus ajouter à la perfection du chant angélique qui résonne éternellement dans les demeures célestes. La liturgie rend gloire à Dieu parce qu'elle nous permet, ici, sur la terre, de voir Dieu dans la célébration des mystères et, en le voyant, de reprendre vie par sa Pâque. Nous qui étions morts par nos péchés et qui avons été rendus à la vie avec le Christ, nous sommes la gloire de Dieu. C'est par la grâce que nous avons été sauvés. Saint Irénée de Lyon, le docteur de l'unité, Doctor Unitatis, nous le rappelle. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et la vie de l'homme consiste dans la vision de Dieu. Si déjà la révélation de Dieu par la création donne la vie à tous les êtres vivants sur terre, combien plus la manifestation du Père par le Verbe est-elle cause de la vie pour ceux qui voient Dieu. Romano Guardini écrit « C'est ainsi que s'ébauche la première tâche du travail de formation liturgique. L'homme doit retrouver sa puissance symbolique. » C'est une responsabilité pour tous, pour les ministres ordonnés comme pour les fidèles. La tâche n'est pas facile car l'homme moderne est devenu analphabète. Il ne sait plus lire les symboles. Il en soupçonne à peine l'existence. Cela se produit également avec le symbole de notre corps. Il est un symbole parce qu'il est une union intime de l'âme et du corps. Il est la visibilité de l'âme spirituelle dans l'ordre corporel. Et en cela consiste l'unicité humaine, la spécificité de la personne irréductible à toute autre forme d'être vivant. Notre ouverture au transcendant, à Dieu, est constitutive. Ne pas la reconnaître nous conduit inévitablement non seulement à une méconnaissance de Dieu, mais aussi à une méconnaissance de nous-mêmes. Nous n'avons plus le regard de saint François qui regardait le soleil, qu'il appelait frère parce qu'il le sentait ainsi, et émerveillé chantait « Dete altissimo porta significatione ». Le fait d'avoir perdu la capacité de saisir la valeur symbolique du corps et de toute créature rend le langage symbolique de la liturgie presque inaccessible à la mentalité moderne. Et pourtant, il ne peut être question de renoncer à ce langage. On ne peut y renoncer parce que c'est ainsi que la Sainte Trinité a choisi de nous atteindre à travers la chair du Verbe. Il s'agit plutôt de retrouver la capacité d'utiliser et de comprendre les symboles de la liturgie. Nous ne devons pas perdre espoir, car cette dimension en nous, comme je viens de le dire, est constitutive. Et malgré les méfaits du matérialisme et du spiritualisme, tous deux négateurs de l'unité de l'âme et du corps, elle est toujours prête à ressurgir, comme toute vérité. L'ars celebrandi, l'art de célébrer, est certainement l'une des façons de prendre soin des symboles de la liturgie et de croître dans une compréhension vitale de ceux-ci. L'ars celebrandi ne peut être réduit à la simple observation d'un système de rubriques, et il faut encore moins le considérer comme une créativité imaginative, parfois sauvage et sans règles. Le rite est en soi une norme, et la norme n'est jamais une fin en soi. mais elle est toujours au service d'une réalité supérieure qu'elle entend protéger. Il faut un dévouement assidu à la célébration, permettant à la célébration elle-même de nous transmettre son art. Romano Guardini écrit « Nous devons comprendre à quel point nous nous sommes profondément enlisés dans l'individualisme et le subjectivisme, à quel point nous nous sommes maintenant affaiblis, et combien étroite est devenue la dimension de notre vie religieuse. » L'ardent désir de cultiver un grand style de prière doit à nouveau s'éveiller. La volonté d'essentialité doit aussi revivre dans la prière. La voie à suivre pour y arriver est celle de la discipline, du renoncement aux satisfactions faciles et sans effort, du travail rigoureux accompli dans l'obéissance à l'Église pour notre conduite et notre être religieux. C'est ainsi que l'on apprend l'art de célébrer. Parmi les gestes rituels qui appartiennent à l'ensemble de l'assemblée, le silence occupe une place d'importance absolue. Bien souvent, il est expressément prescrit dans les rubriques. Toute la célébration eucharistique est immergée dans le silence qui précède son début et qui marque chaque moment de son déroulement rituel. En effet, il est présent dans l'acte pénitentiel. Après l'invitation, prions. Dans la liturgie de la parole, avant les lectures, entre les lectures et après l'homélie. Dans la prière eucharistique, après la communion. Un tel silence n'est pas un havre intérieur dans lequel se cacher dans une sorte d'isolement intime, comme si on laissait derrière soi la forme rituelle comme une distraction. Ce type de silence contredirait l'essence même de la célébration. Le silence liturgique est quelque chose de beaucoup plus grand. Il est le symbole de la présence et de l'action de l'Esprit-Saint qui anime toute l'action de la célébration. C'est pourquoi il constitue un point d'arrivée dans une séquence liturgique. C'est précisément parce qu'elle est un symbole de l'esprit qu'elle a le pouvoir d'exprimer l'action multiforme de l'esprit. Ainsi, en reprenant les moments que je viens de mentionner, le silence conduit à la douleur du péché et au désir de conversion. Il éveille la disponibilité à l'écoute de la parole et éveille la prière. Il nous dispose à adorer le corps et le sang du Christ. Il suggère à chacun, dans l'intimité de la communion, ce que l'Esprit veut opérer dans nos vies, pour nous conformer au pain rompu. Pour toutes ces raisons, nous sommes appelés à accomplir avec un soin extrême le geste symbolique du silence. À travers lui, l'Esprit nous donne forme. Abandonnons nos polémiques pour écouter ensemble ce que l'Esprit dit à l'Église. Sauvegardons notre communion. Continuons à nous émerveiller de la beauté de la liturgie. La Pâque nous a été donnée. Laissons-nous protéger par le désir que le Seigneur continue d'avoir de manger sa Pâque avec nous. Sous le regard de Marie, Mère de l'Église. Et le Saint-Père conclut cette lettre apostolique Desiderio, Desideravi, par une prière de Saint François d'Assise. L'humanité entière tremble, l'univers entier tremble et le ciel se réjouit. Quand sur l'autel, dans la main du prêtre, le Christ, le Fils du Dieu vivant, est présent. Ô hauteur admirable et valeur stupéfiante, ô sublime humilité, ô humble sublimité, que le Seigneur de l'univers, Dieu et Fils de Dieu, s'humilie au point de se cacher, pour notre salut, sous un petit semblant de pain. Voyez, mes frères, l'humilité de Dieu. et ouvrez nos cœurs devant lui. Humiliez-vous aussi, afin d'être élevé par lui. Ne retenez donc rien de vous-même, afin que vous soyez reçus en tout et pour tout par celui qui s'offre entièrement à vous. Merci de votre écoute. Chers auditeurs, c'était notre émission Actualité du Pape. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr. Et sur notre même site radiomaria.fr, vous retrouverez les podcasts concernant Romano Guardini dans l'émission Signé Dieu, auteur que le pape a abondamment cité dans sa lettre apostolique sur la liturgie.